Vous écoutez, on lit pour vous.
Le mystère de l'amnésie infantile, un texte de Mathieu Perrault, paru le 22 juin 2025 dans la presse. Ceux qui se souviennent de leurs premières années de vie sont extrêmement rares. Armés d'appareils d'imagerie médicale dernier cri, des chercheurs tentent de savoir pourquoi. Leurs découvertes sur l'amnésie infantile sont surprenantes. Une équipe de chercheurs de l'Université Yale au Connecticut ont mesuré ce qui se passe dans le cerveau de bambins de 3 ans quand on leur rappelle un de leurs propres souvenirs et quand on leur présente un souvenir appartenant à un autre enfant. Tout le monde fait l'expérience de l'amnésie infantile, le fait qu'on ne se souvient pas de nos premières années de vie, note le neurobiologiste Nick Turk-Brown. Mais l'idée que ces souvenirs n'ont jamais été enregistrés dans notre cerveau, que les bébés n'ont pas de mémoire à long terme, est erronée. Nous avons montré que lorsqu'on rappelle aux bébés des souvenirs, leur hippocampe est stimulé, mais pas quand on leur montre les souvenirs d'un autre bébé. L'hippocampe est une région du cerveau impliquée dans la mémoire. Combien de temps les bébés de 18 à 24 mois conservent-ils des souvenirs? Et cette capacité varie-t-elle selon les individus? C'est ce que tente de mesurer une neuropsychologue irlandaise de l'Institut Max Planck pour le développement humain à Berlin. Les données de Sarah Power pourrait permettre de voir si les variations individuelles d'amnésie infantile sont liées à des caractéristiques futures, par exemple la réussite scolaire ou des troubles comme l'hyperactivité avec ou sans déficit d'attention. Nous avons construit un environnement immersif pour nos 360 petits sujets, explique Madame Power. Par exemple, quand une jungle est projetée sur les murs de la pièce, l'objet qu'ils doivent trouver se trouve dans la boîte A. Mais quand un environnement sous-marin est sur les murs de la pièce, l'objet est dans la boîte B. Nous regardons s'ils s'en souviennent après 1, 3 et 6 mois. Les souris. Une autre idée généralisée est erronée, a démontré Sarah Power, à la suite de ses recherches sur les souris lors de son doctorat au Trinity College de Dublin. On considère souvent que l'amnésie infantile signifie que les souvenirs des premières années sont effacés du cerveau à un certain point, remarque-t-elle. Chez la souris, nous avons montré qu'ils sont là, mais qu'on n'y a pas accès. Cependant, il est possible de réactiver ces souvenirs. L'instigateur de ces travaux au Trinity College, Thomas Ryan, avait montré en 2014, lors de son doctorat au Massachusetts Institute of Technology, MIT, qu'il était possible de créer et de bloquer des souvenirs chez la souris grâce à une technologie invasive appelée optogénétique. Les traces biologiques de ces souvenirs dans le cerveau sont appelées engrammes. Sarah a montré qu'on peut bloquer un engramme spécifique puis redonner accès à ce souvenir à la souris, dit M. Ryan. Mais nous ne savons pas s'il s'agit d'un souvenir général, par exemple savoir presser sur un levier, ou du souvenir d'un événement particulier. Les souris ne nous le disent pas. C'est pour cette raison qu'on doit continuer les études sur les bébés. Évidemment, on ne peut pas utiliser l'optogénétique. C'est trop invasif. La prochaine étape des études animales sur l'amnésie infantile est de déterminer si les cellules microgliales qui protège le cerveau des infections, joue un rôle dans l'amnésie infantile, comme le suggèrent plusieurs études. Il pourrait y avoir une influence du système immunitaire en tout cas des cellules microgliales, sur la mémoire, dit M. Ryan. Il y a d'ailleurs des travaux montrant que l'autisme, qui peut être considéré comme une difficulté à apprendre les codes sociaux et à contrôler certaines obsessions, pourrait être causé par une inflammation durant la grossesse qui engendrerait une réponse immunitaire. Les hypothèses. L'humain a une trop grosse tête, observe Thomas Ryan. Les bébés naissent donc avant que leur cerveau soit complètement développé, parce qu'ils ne pourraient pas rester plus longtemps dans le ventre de leur mère. Mais la plupart des mammifères, les girafes par exemple, peuvent se comporter comme des adultes quelques jours après leur naissance, parce qu'ils ont presque terminé leur développement quand ils viennent au monde. Les années d'amnésie infantile humaine correspondent à cette période de développement supplémentaire que les mammifères passent dans le ventre de leur mère, alors que les bébés doivent terminer leur développement après en être sortis. Les premiers apprentissages nécessitent un terreau vierge. Il y a toujours une tension entre les souvenirs et la capacité d'apprendre de nouvelles choses, dit M. Turk Brown. Si on se fie trop à ses expériences passées, on apprend moins. L'amnésie infantile reflète peut-être la nécessité d'acquérir le plus de nouvelles connaissances dans les premières années de la vie, ce qui laisse moins de place pour emmagasiner des souvenirs. Le bébé ne comprend pas ce qu'il voit. Imaginez un bébé de 1 an qui visite son grand-père avec ses parents. Il ne comprend pas la conversation. Il ne reconnaît peut-être pas qu'il est dans une cuisine parce qu'il y a un frigo et une cuisinière. Mais l'enfant de 3 ans, lui, a développé plus d'expérience du langage et des environnements sociaux. Quand un bébé de 1 an encode ses souvenirs, il ne le fait pas de la même façon qu'un enfant de 3 ans qui commence à maîtriser le langage. Donc à 3 ans, un enfant ne comprend peut-être plus les souvenirs emmagasinés avant. Il devient incapable de comprendre de quelle façon il pensait quand il était bébé, observe Nick Turk Brown. Une fois qu'on maîtrise le langage, quand on crée un souvenir, on le crée avec des mots. Le bébé ne comprend pas non plus ses émotions. Les émotions sont indissociables des souvenirs, indique Chara Green, spécialiste des troubles de la mémoire au Collège universitaire de Dublin. Nous naissons avec la capacité de ressentir des émotions, mais pas nécessairement celle de les définir. Il y a peut-être alors une incompréhension des émotions ressenties quand on était bébé, qui ont été mal cataloguées par la mémoire. En savoir plus, 15 millions, nombre de neurones dans l'hippocampe, une zone du cerveau importante pour la mémoire. Source, sel. 86 milliards, nombre de neurones dans le cerveau humain. Source, Université Harvard. C'était Le mystère de l'amnésie infantile, un texte de Mathieu Perrault, paru le 22 juin 2025, dans la presse.
L'accueil est la sauce secrète de l'intégration. Un texte de Patrick McKenna, paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir. En 1975, j'ai quitté Belfast, ma ville natale et capitale de l'Irlande du Nord, pour m'établir dans une petite ville de l'Ontario rural, où je n'aurais pas survécu à l'isolement des longues soirées d'hiver égrenées dans mon petit demi-sous-sol sans l'accueil de 2 collègues québécois francophones, les seuls à parler le français dans cette ville très anglophone. C'est grâce à eux que j'ai appris l'existence du fait français. Intrigué par cette réalité canadienne parallèle, j'ai commencé à visiter Montréal. J'ai trouvé la ville tellement à mon goût que j'y ai trouvé un emploi. l'encre de la Charte de la langue française ou 1977 n'était pas encore sèche à l'été 1978. Ce n'était certainement pas le moment le plus propice pour qu'un immigrant unilingue anglophone comme moi assume le rôle de chef de la qualité, un dossier qui n'est jamais très populaire, dans une manufacture de tabac située sur la très francophone rue Ontario-Est. J'ai cependant sauté à pieds joints dans le français, et mes efforts, je crois, m'ont valu un accueil chaleureux de la part de mon équipe et de celle de la production. Après un an, mon expression orale était juste assez bonne pour que j'invite une voisine à prendre un café. Après quelques rendez-vous galants, j'ai rencontré sa famille, qui m'a accueilli chaleureusement. Et il n'y a pas que des gens qui m'ont accueilli. Je me suis aussi senti accueilli dans ce que j'appellerais mes « lieux magiques ». Je pense ici au grand parc urbain, au jardin botanique, au Mont-Royal, au Vieux-Montréal, au Vieux-Port et aux rives du fleuve Saint-Laurent. Fort de ces accueils, je me suis confectionné une vie ici, dans ma ville bien-aimée. Tout allait bien jusqu'à ce que la récession de 1992 frappe. Je suis tombé au chômage. D'emblée, je savais que me recaser sur le marché du travail au moment même où le taux de chômage frôlait les 15% allait être difficile. Même les ingénieurs québécois peinaient à trouver du travail. J'étais dans la jeune quarantaine, j'avais donc dépassé ma date de péremption d'employabilité. Pire encore, puisque les cigarettiers canadiens étaient en chute libre, mes années d'expérience dans cette industrie ne me servaient plus à grand-chose. J'ai donc eu à repartir à zéro dans une nouvelle industrie. Par où commencer? J'ai décidé que mon point de départ serait l'amélioration de mon expression à l'écrit afin que je puisse produire des lettres de motivation et des curriculum vitae gagnants. Certes, j'aurais pu suivre un cours de français écrit, mais j'ai opté pour l'idée plus imaginative de rédiger, en français, un article sur la gestion de la qualité. Ma passion pour la qualité, pensais-je, servirait d'échafaudage pour transformer mon français oral en français écrit. Cependant, et malgré le bien fondé pédagogique de ma pensée, j'ai eu un mal de chien à rédiger mon article. Sans ordinateur, ni logiciel de traitement de texte, ni logiciel de correction, il m'a fallu quelques semaines d'efforts soutenus pour pondre 600 mots et tout mon courage pour le soumettre à un grand quotidien francophone. Deux jours plus tard, je suis tombé en bas de ma chaise quand je l'ai vu imprimé dans la section « Courrier des lecteurs ». C'était la toute première fois que j'étais publié, et de surcroît en français. J'étais immensément fier de moi. Cependant, l'euphorie d'être publié a vite cédé à la dure réalité d'avoir à chercher du travail. Jour après jour, j'ai passé au peigne fin des annonces d'emploi, j'ai écrit des lettres de motivation et, parfois, j'ai rencontré des employeurs, mais aucun de ces entretiens n'a porté ses fruits. Après 8 mois, mes prestations d'assurance chômage tiraient à leur fin. J'avais presque perdu espoir de trouver du travail quand, dans un quotidien, j'ai vu une offre d'emploi de spécialiste de la qualité. J'ai soumis ma lettre de motivation avec mon curriculum vitae et, cette fois, le premier entretien a été suivi d'un deuxième où j'ai pu inclure dans mon portfolio l'article sur la qualité que j'avais écrit. Ma candidature a été retenue. J'avais été sauvé par la cloche. L'histoire de ma vie. À ma première journée au bureau, mon nouveau patron m'a expliqué que c'était mon texte sur la qualité qui avait fait pencher la balance en ma faveur. Il a été surpris quand je lui ai dit que le texte n'était pas le fruit d'un cours de français, mais bien de l'accueil dont j'avais toujours bénéficié depuis mon arrivée au pays. J'ai compris, à ce moment-là, que l'accueil est la sauce secrète de l'intégration. C'était « L'accueil est la sauce secrète de l'intégration », un texte de Patrick McKenna paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir.
Quatre choses à savoir sur les diamants créés en laboratoire. Un texte commandité paru le 4 mai 2024 dans La Presse. Le monde a bien changé depuis l'ouverture de la première petite boutique Pandora à Copenhague, au Danemark, en 1982. Devenu aujourd'hui le plus grand fabricant de bijoux du monde, Pandora se tourne également vers les diamants créés en laboratoire. Découvrez quatre faits saillants sur ces pierres précieuses fabriquées à partir d'énergie 100% renouvelable. 1. Il est impossible de distinguer à l'œil nu un diamant de laboratoire d'un diamant extrait de mine. Les diamants confectionnés en laboratoire sont visuellement, chimiquement et physiquement identiques aux diamants extraits de mine. Pandora utilise également un procédé qui reproduit celui de la nature. Résultat, ces diamants sont tout aussi époustouflants et réels que leurs équivalents naturels, avec la même étincelle et la même clarté, indique Joshua Braman, vice-président principal du grand bijoutier danois. 2. Les diamants de laboratoire sont accessibles. Comme le processus de création en laboratoire s'avère rapide et peu coûteux, les joailliers comme Pandora sont en mesure d'offrir des pierres à un prix qui est jusqu'à 3 fois moins élevé que celui des diamants provenant de mines. Les diamants ont toujours été associés aux occasions spéciales. Nous croyons fermement qu'ils peuvent avoir une signification et qu'ils devraient être démocratisés pour apporter une touche de lumière au quotidien, selon Joshua Braman, vice-président Pandora. 3. Ils sont soumis aux mêmes critères de qualité que les diamants provenant de mines. Les diamants fabriqués en laboratoire sont eux aussi soumis aux normes de l'Association internationale de l'industrie du diamant, de même qu'aux standards de la Confédération internationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des diamants, perles et pierres, CIBJO. Les pierres créées en laboratoire sont généralement accompagnées d'un certificat soulignant leur niveau exceptionnel de qualité et de notation, fait valoir le vice-président de la marque. De notre côté, chacun des diamants que nous créons est fabriqué individuellement par des artisans qualifiés avec des normes rigoureuses pour une coupe, une couleur et une clarté remarquables. 4. Créer des diamants en laboratoire permet de réduire l'empreinte carbone de ceux-ci. Lorsque l'énergie utilisée pour produire un diamant en laboratoire est issue de sources renouvelables, cela permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'empreinte carbone d'un diamant que nous confectionnons en laboratoire est 95% moins importante que celle d'un diamant extrait de la même taille, précise Joshua Braman, qui ajoute « En optant pour cette technologie et en transitionnant vers l'utilisation d'argent et d'or recyclés pour nos bijoux, nous avons pu réduire les émissions de nos activités de 27% depuis 2019. » C'était « Quatre choses à savoir sur les diamants créés en laboratoire » un texte commandité paru le 4 mai 2024 dans La Presse.
Le Titanic, une histoire d'hommes, de femmes et d'enfants d'abord. Un texte de Sébastien Tanguay paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir. Les destins qui ont pris place à bord du Titanic remontent à la surface dans la nouvelle exposition du Musée de la civilisation, MCQ, Titanic. récits et destins, va au-delà du mythe de l'insubmersible paquebot pour mieux peindre la fresque sociale du début du XXe siècle à partir des passagers et des passagères qui, billets de première ou de troisième classe en poche, ont largué les amarres en direction de l'Amérique pour finir dans le silence glacial d'un naufrage passé à l'histoire. Depuis le luxe de la première classe jusqu'à la chaleur des fours à charbon de la cale, c'est tout le microcosme social de l'Europe et du monde qui s'agitait dans les entrailles du paquebot. Dans cette tragique traversée de l'Atlantique, millionnaires et miséreux voguaient à bord d'une même île motorisée, avec l'espoir, pour la majorité des passagers déshérités, de trouver une vie meilleure de l'autre côté de l'océan. Titanic, récit et destin, dresse le portrait de cette société grâce à des vestiges engloutis du paquebot. L'exposition, réalisée par la firme espagnole Musealia, réunit 200 artefacts sauvés par les 710 survivants ou arrachés à l'épave depuis sa découverte en 1985. Chaque objet, dans cette exposition, raconte l'histoire d'une vie humaine, affirme le narrateur de l'audioguide, compagnon indispensable pour en découvrir tout le relief. Ils illustrent le quotidien à bord du navire et montre surtout que, sous le mythe érigé autour de la tragédie, il y avait des destins singuliers et enchevêtrés dans le bouillonnement politique d'un monde sur le point d'imploser sur la Grande Guerre. L'histoire universelle contée par le singulier. L'exposition sort des sentiers mille fois battus par la montagne de livres et de films consacrés au drame en braquant la lumière sur des gens, membres d'équipage, passagers, ouvriers, qui n'en ont pratiquement jamais reçu. Le Titanic était un vaisseau rempli de rêves et d'espoir, illustre l'historien Claes Göran Wetterholm, une des sommités internationales en la matière, qui a pris part à 4 expéditions scientifiques sur le site du naufrage. Le navire symbolise encore aujourd'hui l'orgueil d'une époque certaine de sa domination sur la nature, mais aussi la réalité bien concrète de ces millions d'humains issus de l'Europe ou du Moyen-Orient, qui ont hissé les voiles, au tournant du siècle, vers une vie meilleure en Amérique. L'exposition fait le pari de raconter le Titanic et son époque par les anonymes qui ont pris place à son bord, des ouvriers qui nourrissaient le navire à grandes pelletées de charbon, jusqu'au couple princier, séparé par la mort, au milieu d'une lune de miel qui s'étirait depuis un an. C'est une façon de parler du Titanic qui est différente de ce qu'on voit habituellement, dit avec enthousiasme l'historien David Saint-Pierre, qui a collaboré avec le MCQ pour cette exposition. Le côté humain n'est pas souvent traité, ni dans la littérature historique, ni dans les expositions muséales. C'est intéressant de rêver en regardant le parcours des millionnaires, mais l'immense majorité des gens qui étaient à bord du Titanic, c'était du monde bien ordinaire, qui voyait de l'eau courante pour la première fois dans une salle de bain commune. C'est complètement différent de l'image qu'Hollywood a présentée de cette histoire-là. Suffragettes à bord. Les luttes ouvrières et féministes qui battaient leur plein sur la terre ferme trouvaient aussi un écho sur les ponts du navire, parfois sous la forme d'une ombrelle apportée par une suffragette et portant l'inscription « Vote for Woman ». L'exposition insiste aussi sur le clivage social qui existait à bord. La reconstitution d'une suite de première classe, avec ses riches boiseries et ses chambres spacieuses, puis sa mise en contraste avec une cabine commune de la troisième, illustre le gouffre béant que creusait le capitalisme industriel à l'époque où le Titanic larguait ses amarres vers son destin funeste. Les occupants de la première avaient déboursé 5 951 $, soit assez pour s'offrir 6 voitures Ford Model T pour vivre la traversée dans ce luxe pompeux. Ceux de la seconde avaient payé 141 fois moins, soit 42 $. La majorité d'entre eux ont péri par le froid au large de Terre-Neuve, pendant que les plus fortunés, plus proches des embarcations de sauvetage, au moment de percuter l'iceberg, échappaient en plus grande proportion à la mort à bord de bateaux de secours, souvent à moitié vides. Dernier tour de piste de la ville. Titanic, récits et destins constitue la dernière grande exposition internationale à recevoir une contribution de la ville de Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel. L'aide annuelle de 500 000 $ octroyée par la capitale arrive à son terme, au grand dam du MCQ. Il y a une demande pour ces expositions-là, et elles contribuent non seulement à l'économie de Québec, mais aussi à celle du Québec, explique Julie Lemieux, la directrice générale du musée. Une exposition comme Titanic, c'est environ 2 millions de dollars. Cet argent-là nous facilitait beaucoup la vie. De 2024, le MCQ a mis à pied 9 employés dans le cadre de compressions budgétaires qui ont affecté au total 24 personnes. C'était le Titanic, une histoire d'hommes, de femmes et d'enfants d'abord. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir.